Alors, bonjour. Je vais vous décrire rapidement un projet assez particulier d'une ville nouvelle en Europe, ce qui est un cas relativement rare et qui risque bien de se reproduire relativement peu dans le futur. Mais mon propos aujourd'hui n'est pas tant de le décrire dans tous ses aspects. On ne peut pas réduire la complexité urbaine à une liste. On peut encore moins la projeter selon une liste. Par contre, je pense que c'est intéressant de vous montrer comment, aux Pays-Bas en particulier, on a pu créer une centralité selon un mode opératoire assez particulier, particulier dans un sens. Parce que probablement, on est à notre époque, on redécouvre des modes plus anciens. D'un autre côté, aux Pays-Bas, il y a une culture du consensus qui est certainement en partie reconnaissable en Suisse, mais qui se définit là-bas sous le nom de Polder Model, c'est-à-dire tout le monde est au même niveau, bien à plat, ce qui est un modèle différent de celui de nos Alpes en Suisse. Alors, ce projet-là, j'étais le responsable de projet pour un bureau néerlandais dont l'architecte s'appelle Jo Koonen, qui, au-delà d'être un très bon architecte, a surtout eu le rôle assez prestigieux d'avoir été pendant 5 ans l'architecte d'État du Royaume. Donc tous les 5 ans, il y a une nouvelle figure qui endosse ce rôle et dont la tâche est de conseiller le gouvernement dans les questions liées à la planification, mais aussi de l'art et aux questions infrastructurelles à l'échelle nationale. Le projet de Leidsche Rijn, c'est cette ville nouvelle qui est au départ une banlieue de la ville d'Utrecht, était déjà largement engagé, si vous voulez, dans la question de la planification. Nous, on a été invités à faire le projet du centre. Alors, ce qui est un peu étrange, puisqu'on arrive, comme je vous le dis un peu maintenant, on arrive à la fin d'un processus et on nous demande de faire le centre. Donc, on est à l'inverse d'un processus historique de formation des villes. Les villes commencent par le centre, puis elles grandissent, et puis on a la banlieue, la lointaine banlieue, puis après... il y a une espèce de délitement territorial. Là, ils ont commencé par le délitement territorial et puis on fait le centre à la fin. Alors, il y a une raison purement économique. Les Hollandais aussi, la caractéristique d'être très terre-à-terre dès que ça touche l'argent. Quand ils vont en vacances, ils prennent avec leur café, leur mayonnaise. C'est en vendant les terrains de la périphérie pour faire du logement de banlieue, qu'ils ont pu collecter l'argent qui allait permettre de payer les infrastructures qui coûtaient plus cher, qui sont celles du centre. Donc c'est une espèce d'adaptation de facto, de circonstances ou de conditions économiques qui ont permis, mais qui ont surtout fait que on a inversé un processus historique traditionnel. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent un peu, et puis ceux qui connaissent un peu moins les Pays-Bas, Utrecht est une ville qui est une ville terrienne, qui est au centre du pays, contrairement aux autres grandes villes de ce qui est maintenant une grande mégapole territoriale, qu'on appelle la Randstad, qui regroupe notamment les grandes villes qui font tout à peu près 1 million d'habitants, de Rotterdam, La Haye, Amsterdam. Alors Utrecht est considérée comme la 4e ville de cette Randstad. C'est la ville du bord qui entoure un grand vide agricole. Mais c'est une ville qui, par essence, culturellement, est une ville terrienne. Contrairement aux autres qui sont plutôt des villes maritimes avec des ports et qui ont exporté ils se sont aussi servis sur le reste du monde pour leur empire colonial. Voilà, c'est ce que je viens de vous décrire, les 4 grandes villes. Et vous voyez, c'est mieux comme ça. Vous voyez Vous voyez ici, là où je mets la flèche, cette ville nouvelle, elle s'appelle comme ça, ville nouvelle de Leitzerein. Alors, ici, vous avez un plan de Utrecht, à votre droite, avec la gare, et vous voyez cette espèce de papillon jaune qui est le terrain sur lequel nous avons, on nous a demandé de projeter ce centre-ville. Ce centre-ville, évidemment, c'est pas celui de Utrecht, mais c'est celui de cette énorme surface, là, qui est presque en surface aussi grande que la ville historique, mais qui, en même temps, lui appartient, en même temps, lui appartient pas, puisqu'elle est séparée de la ville par un canal aux dimensions mondiales, européennes, le canal du Rhin vers Amsterdam, qui est des dimensions très impressionnantes. Parallèlement à ce canal, il y a une autoroute, celle-là, qui relie aussi le nord, c'est une E quelque chose, 4, je ne sais plus quoi, qui relie le sud de l'Europe au nord de l'Europe. Donc ce sont un système de réseau international, européen, qui font que la ville de Utrecht s'est développée que dans un centre, que dans un sens, en direction de l'Est. Et à un moment donné, évidemment, cette croissance arrive à ses limites fonctionnelles. On commence à avoir des problèmes de réseau, de communication, et puis aussi territorialement, les limites de la ville commencent à buter sur une région de forêt, des régions sablonneuses, qui fait qu'à un moment donné, si cette ville devait croître, elle ne pouvait plus le faire simplement en continuité, et ils ont choisi de passer ces deux énormes barrières et de partir à l'ouest pour développer cette ville. Alors évidemment, on arrive dans cette contradiction, cette complexité qui est d'être une partie d'une ville, mais qui est coupée fondamentalement de ce qu'il a originé. Raison pour laquelle il a été décidé de créer une espèce de gémellité, que cette ville faisait partie de l'agglomération de Utrecht, mais devait avoir sa propre centralité, son centre, puisqu'elle va quand même commencer à fonctionner pour elle-même de cette coupure. Alors, ça, c'est le projet tel que je l'ai formulé le premier jour sur ma feuille de calque en posant mon papier sur la carte d'Utrecht. Et il était important, évidemment, on voit tout de suite l'hypothèse de départ, ce point, le point que vous voyez au milieu de la ville historique, c'est le clocher de la cathédrale. Cette ligne-là, c'est le pont de chemin de fer qui est parallèle à un pont routier qui relie les deux. Il faut savoir qu'en gros, c'est la seule relation qui existe entre la ville historique et puis notre nouvelle ville. Donc c'est assez ténu fonctionnellement. Mais on voit aussi cette hypothèse de tout de suite créer un centre extrêmement dense qui devait pouvoir assumer fonctionnellement et aussi symboliquement son rôle de centre. Vous voyez que toute la périphérie là-bas derrière est déjà bâtie de façon très très distante, très lâche. C'est du monofonctionnel, du logement. C'est une ville, quasiment une ville dortoir. Et le territoire qu'on nous a mis à disposition est un territoire vide, disponible. Le sol est collectif, hein, il appartient à l'État. Vous voyez cet énorme canal, hein, qui est incroyablement large, des zones industrielles et la route qui relie Maastricht du sud du pays à Amsterdam, la A2. Voilà. Le pont de chemin de fer. Ce chemin de fer, il est important parce que c'est celui qui relie Utrecht à La Haye et donc aux autres grandes villes de l'Ouest. Et alors, construire une ville à côté ou entre une autoroute est assez délicat. Le choix a été fait, ça c'est l'État qui finance, c'est de couvrir cette autoroute, une autoroute de 2 × 8 pistes. C'est un investissement conséquent. Mais la conséquence essentielle, c'est qu'on doit créer une dalle qui se promène à 9 mètres au-dessus du sol. Non. Donc, on nous a dit, voici votre terrain, il est vide, très bien, mais au milieu de votre terrain, sur laquelle vous avez fait votre ville nouvelle, votre centre, il y a une dalle à plus 9 mètres. Donc ça, c'était une donnée pour des architectes hollandais, qui ne sont pas habitués à avoir des pentes, qui était assez original. Donc moi, ils m'ont dit, toi, tu es suisse, alors toi, tu vas faire du pan, tu sais comment il faut faire. Donc, ils m'ont dit, voilà, c'est toi qui vas t'occuper de cette histoire-là. Juste un peu lourd, hein, voilà. Et j'ai initié le projet à partir alors d'un mode de projet archaïque pour l'Europe, qui est celui de définir l'espace public. Donc, on n'a pas du tout fait l'inventaire de toutes les contraintes auxquelles on serait confronté. On va faire notre travail d'architecte et d'urbaniste, et on va dessiner l'espace public. Et ensuite, tout ce qui est en espace public, on va le laisser à la commission qui nous a accompagnés en permanence toutes les semaines, une journée de travail. C'est une commission extrêmement large, dans laquelle on retrouve tous les acteurs de la complexité urbaine, tous les techniciens, les ingénieurs, mais aussi les sociologues, mais aussi les groupements d'intérêt, les spécialistes en commerce, des détails, de gros, du parking. Tout le monde était présent dans ce groupe de travail, non pas pour énoncer des contraintes qui sont celles de leur domaine, mais pour faire le projet avec nous. Donc, nous, comme architectes, on ne sait pas tout faire. On a des fois l'ambition de le faire, mais il faut être honnête. Nous, ce qu'on sait faire, c'est donner forme, c'est donner la forme. Alors, l'hypothèse de travail, c'était de dire, nous, on va donner la forme à votre ville, et puis là, dans le blanc, là autour, on vous laisse bosser, c'est vous qui allez faire. Simplement, il y a deux hypothèses de départ. C'est une ville dense sur le modèle centre-européen. C'est l'espace public qui est générateur de l'ordre urbain, et le plein sera fait selon le modèle du bloc de l'îlot fermé sur cour. Voilà, alors ensuite on pouvait disposer un certain nombre d'équipements. Je vais aller assez vite, je leur montrerai des images de villes en pente. Donc évidemment, moi je viens de Lausanne, je leur montre ça. Puis là, il y a les Alpes, ils disent, oh, c'est formidable. Je dis, bon, d'abord il pleut souvent ici en Hollande, puis les Alpes, vous ne les verrez pas toujours. Et ensuite, on a commencé à faire des maquettes tout de suite. Donc, on est tout de suite parti dans la représentation. Et à partir de représentations, on a très très vite obtenu. Je vais trop vite. Je parle plus vite que la machine, c'est pas grave. On a tout de suite obtenu des accords de principe sur presque l'ensemble de la formalisation de cette ville-là. Donc, on a défini les vides, y compris les parcs, un parc qui fait le tour de... Et puis, on a à chaque fois associé à ces images un vocabulaire urbain auquel les gens peuvent se confronter un vocabulaire qu'ils connaissent. Donc, presque toutes les villes historiques hollandaises avaient des fortifications qui se sont transformées en parcs. Le parc urbain qu'on propose comme limite de notre ville fonctionne sur ce modèle-là aussi. Voilà. Donc, c'est presque du copier-coller de situations urbaines existantes qu'on a faites. Hein. Et ce que je vous dis là est important parce que chaque fois qu'on a énoncé un modèle urbain, on l'a associé à des images très précises qu'il connaissait. Ce sont des modèles auxquels les gens pouvaient se référer pour les discuter. Les espaces publics étaient dimensionnés selon des modèles déjà connus, hein, des modèles déjà pratiqués. Ça, c'est par exemple la ville de Delft. L'escalier. Alors, un escalier en Hollande de cette dimension-là, je peux vous dire que c'était vraiment... Donc, tout d'un coup, on fait même accéder... l'ambition d'une ville, d'une petite ville comme ça, a des désirs de métropole. On leur montre en Paris. Alors ils disent, oh, ça sert. Et je vais aller un peu vite. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, mais vous voyez qu'on a pioché dans un vocabulaire, littéralement, et une grammaire de modèles urbains européens. Alors, une fois la Suisse, une fois l'Italie, une fois chez eux-mêmes. On a même donné des noms aux places. Par exemple, la grande place précédente, qui est la place du marché, elle a exactement la dimension de la Piazza Navona de Rome. Donc, elle s'appelle Piazza Navona. La place, une petite place du marché vers la gare, c'est la place du marché de Delft. Elle s'appellera peut-être place de Delft, on ne sait rien. Je veux dire, mais c'est une façon redoutablement efficace pour nous, comme architectes, de dénoncer des concepts fondamentaux de formation de la ville. Ça, c'est un exemple d'une gare à Berlin, Berlin-Mitte, où la gare n'est pas un objet de coupure du territoire, mais un lieu de liaison. Hein. C'est grâce aux arcades qui sont dessous qu'en fait, on crée de la perméabilité. Comme la gare qu'on doit projeter au milieu de notre ville, elle passe en haut, hein, elle est au niveau, elle est même plus haute que l'autoroute, on a aussi travaillé, si vous voulez, sur ces modèles reconnus. Et puis ça, à ce stade-là, et vous voyez qu'on n'a pas poché de la même manière toute chose, ce sont des endroits qui pour nous étaient importants, ce sont les lieux de cristallisation qui seront structurants pour cette ville, ce centre-ville, ou cette ville centrée. Et tout de suite après, la grande maquette qui fait 4 mètres sur 4, donc c'est un énorme machin où les gens pouvaient venir voir et puis commencer à bouger les choses. Donc ce que vous voyez là n'est pas une chose figée dans son plan, par contre, elle est certainement contraignante dans le modèle théorique de formulation de l'espace. Alors, ça, c'est la première chose, la première partie, et l'autre, je vais être beaucoup plus rapide et puis conclure là-dessus, mais c'est le plus important, je finis par le plus important. Assorti à cette maquette, il y a ce document-là, qui fait un peu plus de 100 pages, et ça, c'est le dictionnaire. Alors, le master plan, c'est pas un plan où on dit, à cet endroit-là, on va mettre le théâtre, bien qu'il y ait des contraintes pour le faire, on pourra en parler, mais c'est pas si important aujourd'hui, je pense. Le master plan est en fait un dictionnaire. C'est un dictionnaire dans lequel il y a, assorti d'exemples, les définitions de tous les espaces qui seront projetés dans cette ville. Alors, j'ouvre au hasard. Hein. Là, j'ai ouvert la page place. Alors, il y a la définition du dictionnaire hollandais. Donc, je cite pour vous, vous savez ce que c'est, mais c'est toujours bien de le rappeler des fois. Donc, espace ouvert, non construit, entre des bâtiments, ensuite place, plaza, espace ouvert dans une ville ou un village, parfois avec des arbres, des plantes, avec des monuments. Décoré par des... C'est un dictionnaire un peu vieux, mais c'est pas mal pour ça. Décoré avec des monuments et des statues. Bon. Alors, c'est très important parce que dans n'importe quelle langue, quand on dit une place, effectivement, très vite, on a ce genre d'image qui vient. Or, vous savez tous que maintenant, quand on se promène... Si ça se trouve, dans ce campus, il y a 10 places aussi. Je connais peu de places dans un campus comme ça qui souscrivent à une définition aussi précise, bien qu'elle soit aussi largement acceptée. Donc, quand on parle en français, dans le dictionnaire, de rue, de chemin, de route, on a des associations très précises. C'est encore plus simple si on va prendre le dictionnaire. Donc, en gros, ce document-là est la collection de tous les mots du dictionnaire hollandais. Les Hollandais, ils ont aussi une quantité impressionnante de définitions et de mots pour qualifier la dimension des rues, hein, des chemins et des avenues. Donc, si j'ouvre une autre... j'ouvre n'importe où, et là, qu'est-ce que j'ai ? Promenade. Hein. Qu'est-ce que c'est une promenade ? Je prends le dictionnaire. Rue, seulement pour les piétons. Piéton, promenade, Winkel promenade, promenade pour se promener, pour faire les magasins, etc. Donc, si vous voulez, au moment où on a énoncé ce dictionnaire-là, chaque fois que dans le projet, il y a les plans à côté avec les images, hein, avec des références, chaque fois qu'on dit, là, on va faire quoi ? Une rue ou bien une promenade ou une allée ? Et puis on se met d'accord sur le terme et on a immédiatement le consensus sur la nature physique de l'espace qui est prévu. Et à partir de là, entre ces choses que nous, on peut du coup contrôler complètement, les spécialistes du commerce, par exemple, disent, c'est très intéressant, on va pas mettre les parkings des visiteurs sous les magasins, on va les décaler de au moins 100 mètres pour obliger les gens à marcher dans la rue. Comme ça, ça va donner une rue comme on les connaît, dans lesquelles les gens marchent. Donc tout d'un coup, on a inversé même un mode de pensée mécaniste qui jusque-là est habituel, c'est dire les gens, ils n'aiment pas marcher, ils veulent dans les magasins être dessous pour mettre leur caddie. Et puis, en fait, en faisant travailler les gens sur la nature de l'espace urbain, et puis ça, on l'a découvert ensemble avec eux, on a commencé à changer le mode de fonctionnement traditionnel d'un certain nombre de catégories techniques, si vous voulez, mécanistes. Voilà. Alors, je propose que j'en reste là. Probablement, les questions vont venir toutes seules.